Chez Ucamdem est un acteur de la sphère camerounaise de la gestion des communautés en ligne que l'on ne présente plus. Le consultant social media et formateur en community management s'est fait connaître après avoir lancé en 2013 le blog Histoire du CM qui traite des sujets liés au community management au Cameroun. Lauréat du prix 35-35 dans la catégorie blog et innovation média et auteur de deux ouvrages sur le community management présentés en août 2020, c'est une voix autorisée qui m'a donné rendez-vous dans un restaurant de Yaoundé pour discuter de la pratique de cette activité au Cameroun. Bienvenue dans cette deuxième édition de N.com, le podcast des médias et du numérique, préparé pour vous et présenté par Running Koa. Pendant cet entretien avec Chidjou Kamdem, nous aborderons plusieurs questions. La problématique des banques d'images africaines, l'ascension fulgurante de TikTok, et les enjeux liés à la pratique du community management au Cameroun.
Bonjour, Chidjou Kamdem.
Bonjour, René.
Comment vas-tu?
Ah bah ça va super, et toi-même?
Je vais être très très bien. Si je te demande de citer trois choses qui ont changé dans la pratique du community management au Cameroun, entre tes débuts et aujourd'hui, lesquelles te viendraient à l'esprit en premier?
Alors la première chose, c'est la perception d'entreprise vis-à-vis des réseaux sociaux. Parce qu'au début, elle était plus côté ludique. Se disait que c'est un aspect de divertissement, de jeu. Vu que leurs enfants, je parle des décideurs, hein, les enfants des décideurs en entreprise avaient plus ce côté ludique, fun, divertissant des réseaux sociaux. Et donc, ils ne voyaient pas l'aspect professionnel. Mais maintenant, après pratiquement 10 ans, le travail de formation, de coaching et bien sûr d'apprentissage et de conscientisation. Elles se rendent de plus en plus compte que c'est un espace professionnel où on peut justement établir une vraie communication, un vrai échange, bâtir une vraie communauté pour pouvoir justement construire sa présence autour de celle-ci et inculquer ses contenus, ses valeurs, ses objectifs à travers cette communauté. La deuxième chose, c'est au niveau des professionnels en fait du métier. J'ai envie de dire que depuis que j'ai commencé l'enquête sur les CM au Cameroun, donc en 2015-2016, en 2020, on est de plus en plus nombreux. Mais surtout, niveau salaire, ça a quand même progressé. On peut dire de pratiquement 100 000, 100 à 150 000 en moyenne sur ces 5 ans. Pas sur ces 10 ans, mais sur ces 5 ans. Ça veut dire qu'on est passé de pratiquement 50 000 en 2015 en moyenne à 200 000 francs CFA en 2017-2020. Donc c'est quand même un effort parce que beaucoup de gens se demandent encore si c'est un vrai métier. Dans un contexte camerounais, quand tu gagnes en moyenne 200 000 francs CFA, on peut quand même juger que c'est un salaire plus ou moins acceptable où tu peux vivre. Contrairement à il y a 5 ans, où 5 ans étaient plutôt jugés comme étant les frais de stagiaire en entreprise. Et la troisième chose aussi, c'est le paysage des réseaux sociaux. Parce qu'au début, quand on parlait de community management, il y avait un seul mot à la bouche, Facebook. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Quand on dit réseaux sociaux, community management, on ne pense plus forcément directement à Facebook. Hein. On pense directement à d'autres réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat. On peut même citer TikTok, pourquoi pas. Et ça montre quand même que l'entreprise... ont quand même compris qu'il y a des aspects à intégrer en termes de choix des réseaux sociaux, pas uniquement celui qui est le plus utilisé, mais celui qui va mettre en valeur ou leur permettre d'atteindre rapidement leur objectif sur le social media. Donc voilà principalement les trois choses que je peux retenir dans ce changement de 2010 à 2020.
En tant que community manager, quel est l'outil le plus important dans ton travail au quotidien?
L'outil le plus important C'est difficile de faire un choix, hein, honnêtement. Mais je dirais que, bon, on va dire niveau animation. Je fais un peu de publicité, malheureusement. C'est Agora Pulse. Mais niveau veille, je dois avouer que TweetDeck n'est pas si mal que ça. TweetDeck, franchement, depuis que je l'ai connu il y a des années, je ne m'en sépare pratiquement jamais. C'est un outil que j'utilise régulièrement pour faire la veille, surtout. Parce qu'évidemment, tout passe par Twitter. Et donc, on peut vraiment trouver une information ou une nouveauté ou même de nouveaux outils hein, sur Twitter. Donc voilà, disons mes deux préférés, en fait, c'est Agora Pulse et TweetDeck.
En août dernier, tu as présenté deux livres. Le premier est intitulé « Le storytelling du community management au Cameroun » et le second « La culture africaine du community management ». Quelles histoires as-tu voulu raconter par ces deux bouquins?
Alors, pour le premier, Storytelling du Community Management au Cameroun, c'était un peu d'autobiographie, orientée côté professionnel de ma part, sur 10 ans, justement, dans le 2010 à 2020, qui montrait mon entrée dans le domaine du social media à travers mon parcours universitaire jusqu'à mon parcours professionnel dans les entreprises, agences et en freelance. Donc, j'ai voulu raconter de mon point de vue comment le métier de community manager a évolué, également sa perception dans l'environnement camerounais. Le second, Culture africaine du community management, lui, il est un peu plus pratique. Ça veut dire qu'il vous proposera des recettes pratiques pour mettre en place votre animation, votre gestion de contenu et gestion de communauté sur les réseaux sociaux. Il y a, je crois, 5 recettes majeures qui permettent justement de créer des communautés, augmenter vos communautés, engager vos communautés et créer justement des animations divertissantes et informatives pour chacune d'elles. Donc, c'est vraiment le but, en fait, c'est un retour d'expérience, en fait, le second, Culture africaine du community manager, mais montrer surtout comment il est pratiqué en Afrique francophone, subsaharienne, et montrer justement comment nous, community managers africains, on s'est adapté à ce nouveau métier et comment on l'a retranscrit à la société africaine.
À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre dernier, les utilisateurs des réseaux sociaux ont abondamment relayé des visuels publiés pour l'occasion sur les comptes sociaux de plusieurs entreprises locales de premier plan. Le cimentier Siemens-Cam, la banque Société Générale, l'opérateur téléphonique Yumi et le cosméticien Biopharma pour ne pas les citer. Ces visuels reprenant strictement la même image montrant une enseignante écrivant sur un tableau, ce qui a suscité les critiques des internautes. Qu'est-ce que pour toi un tel événement dit de la pratique du social media management au Cameroun? Quelle analyse tu en fais?
La problématique qui revient là, en fait, c'est une problématique de banque d'images. Je crois qu'on a largement parlé de ça avec d'autres collègues sur le sujet. Et ça montre justement que beaucoup d'entreprises n'ont peut-être pas assez de moyens pour créer une propre banque d'images. Mais ça ne veut pas dire que...
Excuse-moi de te couper, mais ce sont quand même des entreprises camerounaises de premier plan. Quand on parle de Siemens-Cam, de Biopharma, de la Société Générale, ce sont des entreprises qui ont déjà pignon sur rue au Cameroun, qui sont durablement installées et qui ont des process qui permettent de se dire qu'elles ne seraient pas les premières qu'on penserait voir tomber dans ce type de piège, quoi.
Oui, donc j'allais continuer en fait, et effectivement je comprends la question. Elles ont forcément de l'expérience dans ce type de secteur, mais je me dis justement que leurs graphistes, parce que j'estime, je pense bien qu'elles ont différents graphistes pour monter, enfin pour le choix des images, ils ont pratiquement les mêmes repères en termes de sites de recherche d'images. Ça veut dire que sur les 10 graphistes, on va prendre l'exemple comme ça, les 10 connaissent pratiquement le même site. D'accord ? Et ils vont régulièrement là-dessus. Parce que nous, en tant que community manager camerounais, généralement, on a les mêmes types d'outils qu'on utilise, les mêmes sites où on va faire notre veille. Donc, techniquement, j'imagine peut-être que pour les graphistes, c'est pratiquement peut-être la même chose. Donc, ils ont le même propre site de recherche d'images. Et donc, si ce site, en fait, qui vont taper la recherche peut-être enseignant couleur noire, évidemment, la photo de la femme noire écrivant ce tableau va ressortir. Et peut-être sans se concerter, chacun va prendre la même image et va la mettre en ligne. Donc, ce n'est peut-être pas un problème de banque d'images, mais ça peut être un problème juste parce qu'on a les mêmes données en termes de site internet de banque d'images. Ça montre aussi que soit on peut créer des banques, enfin, des photographes camerounais peuvent aussi créer des banques d'images camerounaises, multipliées parce qu'on voit beaucoup dans notre environnement des photographes. Moi, j'en vois tellement. Ils font de très belles photos, mais peut-être qu'ils ne pensent peut-être pas à faire leur banque d'images payante en ligne pour permettre justement aux entreprises camerounaises de puiser là-dessus, parce que beaucoup vont puiser sur d'autres sites internet étrangers et malheureusement, le choix est réduit. Parce que comme je le précise encore, ce sera femme, couleur noire. Alors sur même banque d'images camerounaise, on aura pu mettre couleur noire en fait. Ce sera juste femme, enseignante, tableau et on pourra trouver plusieurs images, plusieurs situations d'enseignants dans une salle de classe. Maintenant, il y a aussi ce souci-là, c'est que on peut aussi imaginer que en termes de budget, ou alors en termes de réflexion pour refaire des budgets, refaire une nouvelle banque d'images, elles se disent que peut-être ce n'est pas le bon moment, on va d'abord faire avec ce qui est en ligne. Donc moi je dis que c'est peut-être une grosse coïncidence d'avoir la même image partout, qui peut s'expliquer parce que il n'y a peut-être pas de banque d'images en interne, mais aussi parce que les graphistes ont les mêmes repères, les mêmes sources en termes de recherche d'images. Et voilà pourquoi on se retrouve un bon 5 octobre avec différents visuels, mais avec la même image qui se retrouve en ligne. Et puis bon, on se demande des fois, parce qu'il y a des questions qui s'est posées, on se demande des fois si c'est la même agence qui a toutes ces boîtes-là, qui a juste que la même image. Mais je pense que si c'est la même agence, elle aurait quand même le minimum de réflexion de se dire « Ok, il faut quand même qu'on change l'image parce que c'est quand même la même image partout. » Mais comme la même image est apparue, je me dis quand même que c'est différents graphistes, mais qui ont malheureusement la même source de banque d'images dans leurs notes. Et donc, du coup, vont puiser là-bas et ne se disent pas que la personne va aussi puiser de ce côté-là. Et donc, vont faire à leur sauce.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, pour que ce type de cas de figure ne se reproduise plus?
Ben, je pense que c'est surtout au niveau des graphistes. C'est à leur niveau, en fait. Je me dis que peut-être, je ne sais pas s'il faut faire une formation ou autre, mais je me dis que les créateurs de banques d'images, pas forcément en interne, hein, mais je parle des photographes, parce que je les interpelle aussi, peuvent aussi penser à créer des banques d'images camerounaises, d'accord ? Et les mettre en avant, en fait, la publicité, les booster et les faire connaître auprès des graphistes, leur disant peut-être que c'est peut-être gratuit le premier mois, ou alors leur donner peut-être des codes de réduction pour utiliser. Parce que le plus important, en fait, c'est que les graphistes aient un large choix en termes d'images. Quand ce sera le cas, je pense qu'on n'aura plus ce problème-là. Mais tant qu'ils auront toujours pratiquement la même référence en termes de site internet, je ne vais pas les citer, mais je pense qu'ils connaissent pratiquement les sites que je veux donner. C'est généralement là-bas qu'on va trouver les images. Et comme je dis encore, les images de couleur, de personnes à couleur noire sont très peu. Et donc, du coup, on se retrouve forcément avec la même image qui ressort. Mais s'il y a des banques d'images, je sais que dans d'autres pays africains, on a des banques d'images africaines, comme ils se nomment, ou béninoises, ou ivoiriennes, ou sénégalaises. Il faudrait aussi qu'on ait plusieurs banques d'images camerounaises pour que davantage on ait différents types d'images pour différents types d'événements dans le quotidien.
Depuis quelques années, on constate une montée inquiétante des discours de haine sur les réseaux sociaux, où on observe, on va dire quasi quotidiennement, une surenchère discriminatoire, principalement par l'ethnie, mais aussi par les tendances politiques et par toutes sortes de conflits sociaux. Qu'est-ce que toi, l'expert des réseaux sociaux, pense qu'il faudrait faire pour réduire ces discours dangereux pour notre cohésion sociale?
Bah déjà, c'est une plateforme, je parle des réseaux sociaux, hein, ce sont des plateformes de liberté d'expression, on va dire ça comme ça. Mais aussi, les patrons de ces réseaux sociaux ont compris que l'importance de bannir ou de censurer ou de prévenir ce discours de haine, en fait. Pas uniquement au Cameroun, mais de façon générique, les discours de haine, d'insultes, parce qu'on a vu ça ailleurs. Et donc, du coup, certaines mesures ont été prises par les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, même sur Instagram. Quand tu veux tweeter, par exemple, ou tu veux publier en commentaire d'un post Instagram des propos haineux, on te demande des fois si tu es sûr de ce commentaire, parce qu'il va peut-être heurter l'auteur du post. Et donc, il y a des mesures qui sont prises. Mais après, on peut évidemment sauter ces mesures et publier le commentaire tel quel, tel qu'on l'a voulu, haineux ou pas. Maintenant, niveau camerounais, c'est vrai que ça grimpe quand même depuis pas mal de temps. Et des fois, on ne peut pas avoir une publication sans des fois cette type d'allusion. Honnêtement, c'est regrettable parce que moi, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je sais que les gens ont beaucoup plus la parole, les gens se cachent derrière des claviers pour faire monter leur discours de haine. Mais maintenant, je ne veux pas dire qu'on doit censurer ces personnes. C'est juste que peut-être qu'il faudrait créer des cadres légaux pour qu'on puisse réprimer ces commentaires. C'est-à-dire que si tu sais que tu commentes avec ce type de mots, tu es conscient que tu peux être poursuivi pour tel ou tel aspect. Ce sont des propositions. Je ne sais pas si elles peuvent être mises en place ou pas, parce qu'honnêtement, on ne peut pas censurer. Si on censure, ça va devenir peut-être de gros soucis, même à Facebook ou à Twitter ou à d'autres. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une petite insulte, on va juste bannir et tout ça là. Mais je pense que ça nuit quand même aux échanges sur Internet, parce qu'honnêtement, même des publications professionnelles qui se veulent professionnelles, il suffit juste qu'un nom apparaisse et dès qu'on voit ce nom, on se dit « Ah tiens, cette personne de telle région » et du coup, ça peut orienter la publication vers le nom de la personne et non le service qu'il a proposé. Et des fois, c'est assez regrettable de voir ce type de contenu. Donc voilà, je ne sais pas si on peut créer un cadre légal pour encadrer tout ça et peut-être permettre aux gens de se rendre compte que leurs propos, qui peuvent finir dans la vraie vie, lors d'une conférence avec des panélistes, en insultant, peuvent être aussi très dangereux quand ils sont émis en ligne. Parce que je vois même quelqu'un en conférence devant des gens insulter sans que lui-même ne soit un peu gêné. Mais le fait d'être derrière son clavier, se dit qu'il a plus de liberté, il est invisible. Alors nous savons tous que sur Internet, on n'est pas si caché que ça. Honnêtement, ceux qui croient encore ça sont vraiment dans le monde des bisounours. On n'est pas caché sur Internet. Donc ne vous dites pas que derrière votre clavier, dans votre téléphone portable, vous pouvez insulter n'importe qui sans qu'on ne sache même qui vous êtes ou sans qu'il y ait peut-être des représailles de la personne. Parce qu'on a vu des gens qui ont porté plainte en justice avec des trucs sur les réseaux, donc c'est possible. Mais moi, j'appelle juste à la bienveillance de chacun, à la citoyenneté de tout un chacun au Cameroun, de se responsabiliser dans les commentaires. Si on n'est pas d'accord avec une personne, on produit des arguments contraires, on échange. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu donnes ton avis contraire, tu donnes ton point de vue. Et même si à la fin, vous restez toujours divergent, pas la peine de s'insulter, chacun va de son côté, avec sa position. On n'est pas là pour prendre l'avis de l'autre ou alors être convaincu par l'autre. Maintenant, si l'autre vous réussit à vous convaincre avec de bons arguments, vous pouvez dire que j'ai compris, je comprends ton point de vue et je l'accepte. Mais si on n'est pas convaincu, pas la peine d'insulter. On peut juste continuer à naviguer sur Internet sans pourtant insulter les gens. Donc moi, j'appelle juste à leur responsabilité. Et si possible, malheureusement, si ça continue de grimper, je pense qu'il va peut-être falloir un cadre légal qui va encadrer tout ça.
Comment vois-tu le métier de community manager dans 5 ans en Afrique et particulièrement au Cameroun?
Disons que j'ai deux perspectives d'avenir. La première chose, c'est que ce sera un métier à part entière. C'est-à-dire qu'on va faire des offres d'emploi en bonne et due forme. Je recherche d'un social media manager ou d'un community manager. Il sera plus impliqué dans le cellule de communication marketing de l'entreprise ou de l'agence ou de l'institution en question. Et surtout, il aura de plus en plus de fonctions. Pas uniquement sur la partie réseaux sociaux comme beaucoup le pensent, mais uniquement sur la partie blogging, sur la partie référencement et peut-être même sur la partie création de visuels, parce qu'on pourra lui demander également d'être un bon graphiste et même d'un bon monteur vidéo. Pourquoi pas? Parce que la vidéo est un format qui prend de plus en plus forme sur les réseaux sociaux en Afrique et même dans le monde. La deuxième perspective que je vois d'avenir, c'est que nos chefs cellules de communication ou marketing devront aussi être des community managers. Ça veut dire qu'ils devront avoir les compétences. Parce que beaucoup sont en train de se demander comment se former pour rester à jour. Parce qu'évidemment, les besoins se font de plus en plus pressants derrière. Et peut-être pour conserver leur poste, ils ont besoin aussi de muter, avoir plus de compétences. Donc, ce qui fait qu'on aura des community managers propres, mais on aura aussi des community managers qui seront nés grâce à des évolutions professionnelles en termes de chef de communication, chef marketing, même chef commercial, même chef RH, pourquoi pas. Le but, en fait, c'est que cette compétence d'animation et de gestion des communautés sur les réseaux sociaux se greffe sur pas mal de métiers dans la com et dans le marketing et même ailleurs, et que l'on sache que c'est une compétence importante pour évoluer dans un monde de plus en plus digitalisé, comme on l'a vu un peu avec la COVID-19. Donc il faudra forcément avoir des petites connaissances sur le digital. Et comme on sait qu'au Cameroun, quand on dit digital, on pense à vos réseaux sociaux. La compétence première, ce sera aussi d'avoir des notions en community management. Après, on peut développer en termes de SEO, affiliation, e-commerce et tout. Mais je pense que la première compétence qui devra se greffer sur beaucoup de professionnels au Cameroun, ce sera le community management. De ce fait, on pourra avoir des gens qui vont vous dire le chef de communication, mais je suis aussi community manager. Donc du coup, il va être entre deux, mais il se considère aussi comme étant un CM, autant qu'il se considère comme étant un CELCOM.
Une info importante concernant est que tu es né en République populaire de Chine, et plus précisément à Beijing, qui est la capitale de ce pays-là. À ce propos, j'ai deux questions. Quels sont les rapports que tu entretiens aujourd'hui avec le pays qui t'a vu naître, d'une part, et d'autre part, quel est ton avis sur la place de plus en plus importante que prennent les plateformes chinoises de réseautage social? Je pense ici à TikTok, qui a pris une ampleur fulgurante cette année 2020, au point de se retrouver dans la ligne de mire de Donald Trump, le président américain.
Alors, la première question, le rapport que j'ai avec la Chine, écoutez, de très bons rapports, parce que y a encore des gens que je connais qui sont là-bas, notamment côté familial, donc forcément on est resté en contact tout le temps, et donc j'ai de nouvelles aussi de la Chine, même si j'ai aussi un attrait pour le Japon, mais bon, ça c'est juste une dérivation. Quand j'étais en Chine, moi j'aime plus le Japon que la Chine. Et donc, j'observe la Chine de mon côté, tant du point de vue touristique, économique et même social média. Dans la deuxième question, justement, porte sur ce sujet, c'est que TikTok explose. Honnêtement, je pense que même en Afrique, je ne pensais pas que ça allait vite émerger, mais j'ai compris aussi que ça a eu son boom parce que, évidemment, on est passé successivement de la 2G, 3G, 4G, au Cameroun notamment en un an. Donc, dans beaucoup de pays africains francophones, on est déjà pratiquement à la 4G et donc, ce type de réseau social est favorisé. On peut facilement l'ouvrir sans avoir peur des mégas qui vont s'envoler à tout bout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il menace les cadors. Les cadors, c'est Facebook, c'est Google et autres. Mais ils ont raison d'avoir peur, ces cadors, parce que justement, les jeunes aujourd'hui, quand ils ont 13 ans ou 12 ans, ne vont pas forcément rapidement ouvrir un compte Facebook. Au mieux, ils vont ouvrir un compte Instagram, au mieux. Mais TikTok apparaît comme une plateforme très, très, très rapide d'utilisation pour eux. Je précise, parce qu'on a beaucoup de gens à jouer au Cameroun qui ne savent pas comment utiliser TikTok. Mais pour eux, c'est assez simple. Vraiment, honnêtement, pour eux, ils n'ont pas trop de difficultés comme nous, qui sommes un peu plus âgés, mais pour eux, c'est rapide, c'est intuitif. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent ça peut-être pas encore une chose, c'est que tout ce qu'on publie en ligne sur Internet, ça reste quelque part. Mais beaucoup de gens se sentent un peu trop libres sur TikTok et même sur Snapchat. Et donc, ils peuvent justement avoir ce problème après en termes de contenu qu'on publie, qu'ils peuvent mettre. Parce que la preuve, on peut t'échapper n'importe quel type de contenu sur TikTok. Hein. Dès qu'on l'autorise, quelqu'un peut venir sur ton TikTok, il t'échappe ta vidéo, il la remet ailleurs, sur Facebook et autres. Donc, ne soyez pas surpris que votre contenu TikTok se retrouve dans d'autres réseaux sociaux. Et donc, la Chine, en plus de TikTok, a leurs propres réseaux sociaux qui sont locaux, sont leurs vrais concurrents parce que rien que la population chinoise est estimée en milliards. Donc, techniquement, ils n'ont pas besoin de convertir d'autres marchés hors que la Chine. Mais c'est Facebook qui cherche à pénétrer le marché chinois parce qu'ils se disent que, comme on est en recherche constante d'abonnés, voilà un marché qui représente plus d'un milliard, on a envie d'y être. Et donc, c'est un peu la force aussi de la Chine, c'est qu'eux n'ont pas forcément besoin de venir gratter, je dis en dehors de TikTok, hein, mais les autres n'ont pas besoin de venir gratter le marché européen. Mais c'est vous qui devez venir gratter sur leur marché pour avoir des parts. Et donc, eux, ils se satisfaient forcément de leur pourcentage, de leur chiffre d'affaires. Et ils savent que la population chinoise sera toujours adepte de la plateforme, mais c'est à vous de venir. Et ils ont réussi avec TikTok, c'est qu'ils ont exporté un peu leur application ailleurs. Et voilà pourquoi ça fait trembler un peu les États-Unis, parce qu'ils ont eu peur que les données fuitent vers la Chine et tout ça. Mais je pense qu'ils ont TikTok à rassurer en disant que non, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours ce petit souci, c'est que quand l'application n'est pas dans ton pays propre, tu te dis toujours que bon, ça va aller ailleurs. Mais TikTok, honnêtement, ça a été la belle surprise pour moi de 2019-2020. Ça va encore plus exploser en 2021 parce que beaucoup de marques, quand même, avec le confinement, compris que beaucoup de jeunes y sont. Et donc, techniquement, ça peut donner des idées à beaucoup de marques d'investir une présence sur les médias. Mais je rappelle encore, ce n'est pas obligatoire. Hein. Je dis, ce n'est pas obligatoire. Si on sait ce qu'on va faire en termes d'objectifs, en termes de contenu ludique, il faut y aller. Sinon, restez là où vous êtes, ça ne sera pas plus mal.
Alors, je crois que là, on va finir avec une dernière question, ou une avant-dernière question, qui est une question assez triviale. Dans toute la galaxie des réseaux sociaux, s'il fallait n'en garder qu'un, quel serait le réseau social qui aurait des faveurs chez Joe Camden?
Alors, il y en a deux liens qui me viennent en tête. Il faut les départager. J'aurais dit d'abord Facebook. Mais honnêtement, sur Twitter, la parole est plus libérée. Ça veut dire que je peux ouvrir Twitter et après, je peux ne plus rien ouvrir en termes d'application par jour. Parce que j'aurai facilement ce que je recherche en termes d'information, en termes de débat, en termes de trucs ludiques, de blagues, de contenu divertissant. Honnêtement, je sais que je peux aller sur Twitter. Facebook sera un peu plus complémentaire parce qu'il y a aussi des parties vidéo qui m'intéressent un peu plus longues et que j'aimerais consulter aussi sur Facebook. Mais Twitter, quand même, pour moi, rassemble pas mal de choses. D'ailleurs, que Twitter, je rappelle, quand on a eu le problème avec les likes sur Instagram, les gens avaient été en manque de likes sur leur. Parce que dès que je suis bien photo sur Instagram, tu vois le nombre de likes. Ils venaient sur Twitter pour se produire, comme on dit. Ils mettaient leurs photos. Du coup, Twitter est devenu un peu comme un Instagram. Et ça continue là parce que beaucoup de gens publient leurs photos sur Twitter. Donc, Twitter agrège un peu tout ça. Et agrège aussi le côté Facebook. C'est pas la partie vidéo qui peut être un peu plus multiplié. Parce que si c'est multiplié, même la partie live vidéo sur Twitter, je pense que Twitter serait quand même intéressant, davantage intéressant pour moi. Et je pourrais laisser Facebook de côté.
Donc on dit Twitter.
On dit Twitter.
Pour finir cet entretien, est-ce que tu as un mot, un dernier mot à dire aux personnes qui vont écouter, aux auditeurs de ce podcast?
Alors, première chose, retenez ceci, c'est que le community management, c'est un métier, c'est profession, on peut en vivre. Deuxième chose, si vous désirez devenir community manager, la première chose, c'est qu'il faut avoir la passion. Je pense que c'est la règle première, il faut être passionné. C'est pas un métier qu'on fait juste pour remplir des cases horaires et rentrer à la maison, non. C'est un métier qu'on fait pratiquement 24 heures sur 24, mais pour réussir à le faire bien, il faut être passionné. Et donc après ça, alors, il faut chercher à se former auprès de pas mal d'instituts, d'agences ou de personnes qui peuvent vous apporter les bases et commencer à vous développer dans ce domaine-là. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. SEM, c'est un métier. Il faut avoir la passion. Et si on veut pratiquer cette profession, il faut se former.
Merci beaucoup, Chedou Kamdem, pour ta disponibilité. On se dit à bientôt.
À très bientôt. À très bientôt.
Vous pouvez retrouver Chedou Kamdem sur tous les réseaux sociaux et sur son site web www.chedoukamdem.com. En ce qui nous concerne, rendez-vous à la prochaine édition de N.com, votre podcast des médias et du numérique. Retrouvez aussi mes articles sur mon site web nkowa.com.